Nous continuons, bien sûr, dans l'étude dont le titre général est, je le rappelle, la fidélité du disciple accompli. Et ce matin, nous allons nous intéresser particulièrement au joug de Christ. Le joug de Christ. Et bien entendu, nous lirons tout de suite le passage où se trouve cette expression, c'est-à-dire dans Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, et verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. » Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Ainsi, Jésus promet le repos de l'âme. Et ce repos, qu'est-il ? Dans son sens général, le repos n'intervient qu'à l'achèvement de la tâche. D'où, d'ailleurs, l'institution du sabbat, comme septième jour au septième jour de la semaine. Le repos vient à la fin du travail, après le travail effectué. Mais concernant le disciple de Jésus, le repos de l'âme se présente immédiatement à l'orée de la vie chrétienne, à la conversion, parce que il est le fruit de la justice. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 32. Je vais vous lire un verset, chapitre 32, verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Donc, le repos est le fruit de la justice, et comme le chrétien est justifié, il est sanctifié, lavé, eh bien, il entre dans le repos de l'âme, fruit de la justice qui le revêt. Il est revêtu de la justice du Seigneur et il entre dans le repos de l'âme. Et vous savez que cet homme, l'homme converti, l'homme ou la femme convertie, revêt le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il revêt l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, comment ce repos se caractérise-t-il ? Eh bien, il est une félicité de l'âme, une félicité. Ça se goûte, une félicité. Et il faut toujours désirer goûter cette félicité. Félicité de l'âme en relation très directe avec la fidélité. La fidélité qui devient une nécessité. On a besoin de fidélité. Ce n'est pas seulement une recommandation, n'est pas seulement quelque chose qui nous est donné comme nécessaire, mais on a besoin, la nécessité se présente intérieurement. Le repos, c'est la paix intérieure et la joie par le Saint-Esprit. Paul dit que le royaume de Dieu, en effet, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit, et c'est le fait d'une conscience qui reste pure et tranquille. Cela aussi, le prophète Ésaïe l'a déclaré. Mais le Seigneur Jésus nous dit, il y a un joug à porter. Il y a un joug. Il emploie le terme, nous savons ce que veut dire ce terme, il n'est pas nouveau, là, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'introduit le Seigneur, il dit simplement ceci, attention, il y a un joug à porter, le mien, le mien. Que peut être ce joug? Eh bien, manifestement, c'est la croix à porter, la croix à porter. Le Seigneur, en effet, nous a dit dans l'évangile de Matthieu, dans celui de Luc aussi, nous l'avons, mais en Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, veut venir après moi. Il disait cela parce qu'il y avait derrière lui toute une longue théorie de gens qui soulevaient la poussière des chemins. Ils étaient là derrière. À un moment, Jésus se retourne et puis il leur lance cette parole. Si quelqu'un veut venir après moi, eh bien qu'il renonce à lui-même. Ce n'est pas tout de me suivre comme ça. Il faut renoncer à soi-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et l'évangile de Luc ajoute chaque jour, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et le repos de l'âme apparaît donc objectivement comme l'affranchissement du péché et de la puissance du péché. La vérité vous affranchira, a dit le Seigneur. Ainsi, le fardeau des charges que constituent les responsabilités morales, ce fardeau est enlevé, il est ôté. Et avec lui sont enlevées aussi les souffrances intérieures que causent les responsabilités morales de l'homme. Tout cela, on ne l'analyse pas toujours, bien sûr, mais à parler avec les gens du monde, on se rend bien compte qu'ils sont tous sous ce fardeau des responsabilités morales et d'une conscience qui n'est pas tranquille. Eh bien, alors, ce fardeau est enlevé. Toutefois, le fardeau enlevé, il faut se placer sous le joug de Christ, c'est-à-dire accepter de vivre en porteur de croix. Vivre en porteur de croix, chaque jour, et cela le faire volontairement, par force de foi et par amour. Si le joug de Christ est la croix à porter, alors nous avons déplacé la question sur un autre terme, mais posons alors une autre question, quelle est cette croix? Et à quoi pratiquement correspond-elle pour nous? Eh bien, le Seigneur nous l'a dit. Alors, le mieux, c'est naturellement de consulter la Sainte Écriture. Alors, je prends dans les Proverbes, d'abord au chapitre 3, un passage qui est tout à fait approprié à ce port de la croix, chapitre 3, verset 1er, des Proverbes. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Ils augmenteront. Littéralement, dans le texte original, « ils feront et garantiront ta paix. » Que ta bonté, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, surtout, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Voilà de quoi est fait le repos du Seigneur. La grâce, tu acquerras de la grâce et une raison saine. Jésus lui-même portait cette grâce en sa personne. Aux yeux de Dieu, cela aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça, c'est le joug. Attention, confie-toi. Tu as la foi, mais dans ta foi, il y a la confiance. Confiance à donner à Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur tout cela, la sagesse qui monte de ta nature première. Elle ne peut pas être bonne, cette sagesse. Reconnais-le, l'Éternel, dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ça fait partie du repos aussi, il aplanira tes sentiers. Ne sois pas un sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Voilà déjà une belle description qui nous montre à la fois et le joug et le repos. Maintenant, nous irons dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 15. Là, alors, nous sommes dans un langage tout à fait direct du Seigneur. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Gardez les commandements, ça, c'est le joug du Seigneur. Gardez mes commandements. Nous allons dans le même chapitre, au verset 21. « Celui qui a mes commandements » et qui les garde, c'est-à-dire qui les observe, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Donc, être aimé de Dieu, ça fait partie du repos, ça. Le repos, être aimé de Dieu. Et le joug, alors, c'est garder les commandements du Seigneur. Et il y a bien d'autres passages, je ne peux pas en lire davantage, ils sont tous, bien entendu, dans le même sens. Dans le passage de Matthieu 11 que nous avons lu, le Seigneur dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions », ce qui équivaut à garder mes commandements. « Recevez mes instructions », c'est-à-dire « écoutez-les, faites-les entrer au-dedans de vous, recevez-les au-dedans de vous, et gardez-les, mettez-les en principe, en pratique, gardez, et surtout dans le sens de observer. Le joug qui est doux, ou la croix à porter, désigne donc bien les instructions ou les commandements du Seigneur. Le Seigneur a employé ces termes, instruction, commandement ou parole, gardez ma parole. Ces commandements, ces instructions appartiennent à l'œuvre de la croix. C'est pourquoi nous pouvons très bien réunir, assimiler le joug apporté à la croix apportée, parce que les instructions, les commandements découlent de l'œuvre de la croix et ils en sont les prolongements éternels. Les commandements du Seigneur, s'il y avait la croix et que le Seigneur n'ait pas donné à la suite des instructions, des commandements, alors que deviendrait l'œuvre de la croix? Elle se perdrait, le bénéfice de l'œuvre de la croix se perdrait. Non, vous voyez que donc le joug à porter, les commandements à garder, à observer, la croix à porter, viennent de la croix et en sont les prolongements éternels. Et le Seigneur de dire « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Pourquoi ce joug est-il doux? Eh bien, parce qu'il est bienfaisant. Il est bienfaisant. Il procure la puissance de la vie. La puissance de la vie. Pensons à cette parole du Seigneur. Si quelqu'un, garde ma parole, garde, dans le sens de reçoit et observe. Si quelqu'un donc garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ça c'est dans Jean 8:51. Il ne verra jamais la mort. Et il va un jour, on va le conduire au cimetière pourtant. Non, mais c'est pas la mort ça. Le jour où on le conduira au cimetière, il vient déjà d'entrer dans l'éternité. Et sa vie s'est manifestée. Les gens diront, ah, cet homme-là, il a fait une belle mort. En réalité, il n'a pas fait de mort, il a fait une belle entrée dans la vie éternelle. L'apôtre Paul dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Il n'a jamais eu de clous dans ses mains, il n'a jamais été cloué sur une croix, lui, l'apôtre Paul. Pas plus que David, qui le dit aussi dans un de ses psaumes, ils ont cloué mes mains et mes pieds, ils ont percé mes mains et mes pieds. Enfin, il n'a jamais eu réellement, littéralement, mais il l'a ressenti avant. Il a ressenti que ces choses devaient arriver. Et quant à Paul, lui, il dit cela parce que il veut ainsi attester de cette réalité que il s'est mis dans la conformité à la mort du Christ et à sa résurrection. J'ai été crucifié avec lui, ça veut dire je suis toujours, je suis entré dans cette expérience de la conformité à sa mort et à sa résurrection. Je suis toujours là. Je suis toujours dans cette conformité à la mort du Christ et à sa résurrection. Et je vis donc par conséquent avec lui. Je vis avec lui. J'ai été crucifié avec lui, avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour rester dans la crucifixion avec Christ, il convient de se soumettre à ses instructions, c'est-à-dire de porter ce joug qui est léger, beaucoup plus léger que nous ne pouvons l'imaginer. Et alors, la vie nouvelle va manifester sa réalité et la puissance en nous. Il faut que la vie nouvelle se manifeste en nous. Chers amis, n'oublions pas que la vie chrétienne, c'est cela, tout le reste, c'est très secondaire, tout le reste, ça devrait découler du fait que la vie véritable, la vie nouvelle, est en nous, et se manifeste dans notre personne, dans la partie intérieure de notre personne, et aussi à l'extérieur. Le joug est doux et le fardeau léger, puisque il détermine la marche en nouveauté de vie et procure la vraie liberté. Il procure la vraie liberté. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien vous voir méditer et conserver, cela. la vraie liberté, dans un temps où on parle tellement de liberté sans savoir ce que c'est réellement que la liberté. Je vais lire Romains chapitre 6, verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Mais tout de suite, Paul apporte une parole de compréhension. « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Le monde veut obtenir une liberté à tous égards. D'ailleurs, il le veut, il prend. Maintenant, on le laisse faire. On le pousse à cela. Il s'empare d'une liberté qu'il conçoit comme une liberté tous azimuts, à tous égards. C'est-à-dire une liberté qui est indépendante de toute loi. Une liberté sans qu'il y ait d'interdiction quelconque, de restriction, une loi à tous égards. Or, c'est là une chose impossible, je l'ai déjà dit hier, mais je le répète parce que c'est tellement important. Si l'on rejette le joug de Christ, si on veut par conséquent d'une liberté, n'est-ce pas, à tous azimuts, même pas le joug de Christ, que l'on considérera d'ailleurs d'une façon erronée comme quelque chose de pénible à porter, alors que Jean nous dira les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles dans l'amour. Alors, si on rejette le joug de Christ, on se trouve enfermé nécessairement dans la captivité de Satan. On retombe dans la... ou on reste, ou on est enfermé dans la captivité de Satan. Il faut donc savoir que la liberté n'est pas concevable en dehors du joug de Christ, c'est-à-dire en dehors de ce que Dieu nous révèle comme étant les principes de la vie véritable. Et c'est la vie véritable, c'est dans la vie véritable que l'on goûte la liberté, mais cette liberté étant elle-même soumise à la justice de Dieu, comme nous l'avons lu, ou bien, si vous voulez, aux lois de Dieu, aux principes qui régissent la vie véritable. Quand Israël était infidèle à Dieu et qu'il cherchait sa liberté dans des alliances ou des arrangements de son cru, il s'enfonçait dans la pire des captivités. Ça, c'est la leçon que nous avons dans l'Ancien Testament. Hein. Il s'enfonçait dans la pire des captivités. Alors après, il pouvait crier au secours. Il était délivré, par contre, quand il se soumettait aux méthodes divines. Dès qu'il revenait, qu'il se soumettait aux méthodes divines, il était délivré. Quelle leçon donc à tirer, vous voyez, de cette histoire d'Israël, hein, pour nous. Il y a une expression que j'aimerais vous rappeler de l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. C'est au chapitre 10 et verset 5. « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez-vous, nous amenons toute pensée captive, voilà ce que doit faire le témoignage, ou si vous voulez, l'évangélisation, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, à la foi d'obéissance, ou à l'obéissance de la foi. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire toute pensée qui va se placer sous le joug de Christ. Tel est donc le joug de Christ, doux et léger. La fidélité du disciple accompli implique donc d'abord qu'il se soit placé sous le joug de Christ et qu'il marche chaque jour en porteur de croix. Actuellement, nous sommes dans une société qui n'aime pas l'autorité et qui rejette l'autorité. Il y a déjà pas mal de décades que ce phénomène s'est manifesté dans notre société occidentale surtout. Et cette société, la société actuelle, qui déteste l'autorité, prétend le faire pour être désaliénée. Elle ne veut pas être aliénée. Désaliénée. En réalité, ils arrivent à une forme d'aliénation qu'ils ne connaissent pas. Mais elle prétend être désaliénée. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans la rue, que ce soit à l'école, au bureau, partout, l'autorité est honnie. On ne peut plus, on ne doit plus commander. J'ai eu l'occasion de voir des fonctionnaires qui étaient notablement plus jeunes que moi, mais qui sont arrivés tout de même à l'âge de la retraite, parce que moi, il y a déjà longtemps que je connais la retraite. Alors j'ai vu des fonctionnaires plus jeunes et qui m'ont dit « Oh là 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 là, quel soulagement la retraite !» Ils m'ont dit « Vous ne pouvez plus vous imaginer, maintenant dans l'administration, on ne peut plus commander, il n'y a plus moyen, il n'y a plus moyen. » On soulève alors des affaires épouvantables si on commande. On ne peut plus commander. On ne peut plus commander. Et ça, il y a des fonctionnaires, par exemple, des PTT, qui me l'ont dit, il n'y a plus moyen de commander, on ne peut plus commander. Dans la SNCF, il y a eu, il n'y a pas tellement longtemps, peut-être en 82, quelque chose comme ça, une longue grève. Et à l'issue de cette grève, les grévistes ont déclaré « Nous avons maintenant acquis quelque chose d'important, nous ne sommes plus commandés. » Nous ne sommes plus commandés. Je ne sais pas comment ça marche. Mais voilà, n'est-ce pas, ce qui a germé, ce que le diable a fait germer dans le cœur des hommes de notre temps. Le pape lui-même ne parvient pas à se faire obéir. Il en a pourtant les moyens, mais il n'y parvient pas. L'idée abominablement fausse est que l'autorité est incompatible avec la liberté. Ça, c'est une idée fausse. Il faut surtout que nous, chrétiens, n'est-ce pas, nous sachions que ça, cette idée-là, il faut surtout là ne pas lui donner asile dans notre cœur. C'est la liberté inconditionnelle, la liberté tous azimuts, qu'une philosophie néfaste et mensongère a inculqué à beaucoup de nos concitoyens, qui est la grande erreur, le grand égarement de notre temps. L'anarchie à laquelle cette philosophie tend à donner naissance, si vraiment elle arrivait à son comble, introduirait la société dans un chaos épouvantable. Mais la fidélité du disciple de Jésus-Christ est une soumission à l'autorité du Christ. Une soumission à l'autorité du Christ qui est celle de Dieu. Le Christ n'a accompli que la volonté du Père, le plan du Père. L'autorité qu'il exerce est celle du Père. S'il y a des chrétiens qui croient pouvoir composer avec les enseignements du Seigneur ou n'en conserver qu'une sélection, cela je l'ai dit, notre frère Gisquet l'a dit aussi, ne conserver qu'une sélection des enseignements du Seigneur, eh bien, s'il y a des chrétiens qui sont dans cette position, ils ont rejeté la fidélité. Ils se sont insurgés contre la fidélité. On ne dit pas, moi je fais ça, puis ça, oh ben ça c'est secondaire, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça n'est absolument pas possible. Je veux vous lire dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 5. Lisons chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Est Seigneur. Et quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, on pense à son autorité. Que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Nous aurons l'occasion de revenir sur cette assertion de l'apôtre Paul qui demande en effet quelques éclaircissements. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, et portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé en vain, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Que tout genou fléchisse, car Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est lui seul qui nous amène à la gloire. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nous avons besoin, nous allons au Père. Maintenant, nous allons à Dieu. Vous savez que le grand but de Dieu, c'est de conduire beaucoup de fils et de filles à la gloire. C'est-à-dire à vivre en sa présence, dans l'éternité. Vous savez certainement aussi que le temps a été créé en même temps que les choses que nous connaissons dans la terre, sur la terre, dans l'univers. Le monde a été créé et quand le monde a été créé, le temps a été créé. Le temps et l'espace ont été créés. Ils ont été créés. Mais lorsque toutes choses seront remises à Dieu par le Seigneur Jésus, lorsque le monde tel qu'il est, tel que nous le connaissons maintenant, disparaîtra, il n'y aura plus de temps les notions de temps et d'espace auront vécu, il n'y aura plus que l'éternité. Pour nous, l'éternité, c'est assez impénétrable, mais nous savons pourtant que là se situe la vérité. Qui pourrait devenir irréprochable et pur, irrépréhensible, s'il ne reconnaissait l'autorité et la seigneurie du Christ, et s'il amoindrissait sa parole, s'il ne l'observait qu'en partie ou à travers le prisme déformant des conceptions modernes. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quel merveilleux passage que celui-là. Pierre avait une prière inspirée, vraiment, et chose extraordinaire, il nous dit « Je ne cesse de rendre grâce ». Et de prier. Il ne cessait de prier, non pas que sa prière n'était pas exaucée, mais c'était une prière de soutien. Cette prière, elle est constante, elle doit constamment être dans nos cœurs et même dans nos bouches. Il priait pour que les chrétiens reçoivent un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Dans sa connaissance de Dieu. Et ce sont là, bien sûr, des biens fondamentaux dont le disciple a un grand besoin pour lui-même. La sagesse qui permettra d'attendre toute lumière de l'esprit et de la parole, et de ne rien faire, de ne pas faire précéder l'action, devant cette lumière de la parole. Par elle, par la parole, la pensée profonde de Christ, et par la lumière qui nous est donnée d'en haut, la pensée profonde de Christ sera pénétrée, et elle dominera toute autre pensée. Elle dominera toute autre pensée. Et il y aura une révélation de Dieu. Vous savez, c'est un chapitre que je ne peux pas ouvrir, je fais simplement une courte mention. Nous avons les Écritures. Et nous disons, c'est la parole de Dieu, c'est vrai. C'est la parole de Dieu écrite, pour préciser. Bien. Mais, il y a, dans le monde évangélique, certaines formations où l'on s'attache à la parole écrite uniquement. C'est-à-dire qu'on s'attache à cette parole et on en fait une exégèse, on essaie de bien connaître le sens, la portée même, mais on ne fait jamais appel à cet esprit de sagesse et de révélation dont l'Église a besoin. Et il y a la parole écrite. Merci Seigneur pour nous l'avoir donnée. Mais il y a l'Esprit qui a inspiré cette parole et dont nous avons, nous, besoin pour consulter cette parole et pour en retirer la richesse spirituelle. Nous avons besoin de l'Esprit. Nous ne pouvons pas retirer de la parole uniquement par des moyens venant des facultés humaines, tirer de la parole toute son essence, toute sa valeur, toute sa richesse spirituelle. Il nous faut le Saint-Esprit. C'est ce que Paul demande ici, un esprit de révélation dans la connaissance du Seigneur. Voilà comment nous pourrons retirer de la parole tout ce qu'elle a à nous communiquer. Il faut donc une illumination du cœur. Et cette grâce doit être recherchée, une illumination du cœur, afin de posséder en soi, intérieurement, la haute et surnaturelle notion de l'espérance. Cela, Paul nous le dit beaucoup pour l'espérance. L'espérance. Il faut que nous ayons en nous cette notion de l'espérance qui, du fait de l'appel auquel nous avons répondu, nous est destinée. Le Seigneur nous a, entre autres grâces et biens, nous a remis l'espérance. Elle joue un rôle considérable. L'espérance d'un héritage glorieux, dit l'apôtre, qui est d'une richesse incalculable, d'une richesse humainement inimaginable. Pierre en parle aussi, vous savez, de cet héritage glorieux. Il en parle dans sa première épître et au chapitre premier, de la manière suivante, chapitre 1er, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, vivante. » Et Paul dira, notre espérance, c'est Christ. Il faut que Christ soit regardé comme notre espérance, une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Une espérance, un héritage glorieux, merveilleux. Nous avons besoin de vivre cela. Vous savez, Jean nous dit que celui qui a cette espérance de pouvoir voir le Seigneur tel qu'il est, n'est-ce pas ? Celui qui a cette espérance dans le cœur se purifie, comme le Seigneur lui-même est pur. Donc l'espérance joue un rôle considérable dans notre marche chrétienne. Et l'apôtre Paul parle de la vue des yeux du cœur, la vue illuminée, il a parlé d'illuminer nos yeux, les yeux du cœur. Aux yeux du cœur, à la vue donc des yeux du cœur, s'offre également la certitude que la grande puissance de Dieu, la grande puissance, dans le grec c'est le terme dynamis, dont on a fait le dynamique, les mots comme dynamique. La dynamis, cette grande puissance qui a ressuscité le Seigneur Jésus, et même cette puissance est intervenue à sa naissance. L'ombre de l'Esprit est venue sur Marie et son sein a été fécondé par la puissance de Dieu. Cette puissance est employée à la résurrection du Seigneur Jésus, mais elle continue à s'employer. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul, cette dunamis qui a ressuscité le Seigneur Jésus, qui a fait sortir Jésus du tombeau, c'est celle-là même et qui retire un pécheur de la mort. Parce qu'il faut beaucoup de puissance pour ça, c'est une œuvre de Dieu, ça. Tout ce qui, en somme, intervient dans le cours de notre vie chrétienne selon le dessein de Dieu est dû à cette dynamis, cette puissance de Dieu qui se met à l'œuvre. Donc, n'ayons pas peur de faire appel à la force, à la puissance qui est en notre Seigneur Jésus. Christ assis à la droite de Dieu se trouve au-dessus de tous les êtres célestes, même les plus élevés, et cela pour toujours. Il est au-dessus de tous les pouvoirs de la terre, bien sûr, au-dessus de nous tous, au-dessus de toute intelligence. Et sachant cela, comment aujourd'hui permettrions-nous aux penseurs du monde actuel. Il y a tellement de penseurs, il y a tellement de sciences, les sciences humaines, les sciences ont toutes sortes de, aujourd'hui, de disciplines, des disciplines à n'en plus finir. On en crée tous les jours. Alors comment permettrions-nous aux penseurs du monde, aux théories, aux sciences qu'ils répandent, d'intervenir dans l'interprétation ou la compréhension de la parole de Dieu? On n'a rien inventé, ni rien découvert qui soit susceptible de transformer cette précieuse parole de Dieu, et on ne peut que l'obscurcir et envoiler la juste portée si l'on veut faire appel à ces conceptions du monde. Et si je dis cela, c'est parce que, qu'est-ce que vous voulez, ça figure dans des journaux chrétiens. On nous dit, par exemple, n'est-ce pas, eh bien, si vous consultez la parole de Dieu, surtout vous concernant pour votre vie, pour mettre des choses en ordre dans votre vie, si vous la consultez, connaissance prise des données de la psychologie pratique, celle qui est assez régulièrement enseignée maintenant, alors si vous prenez ces éléments, vous les connaissez, et vous consulterez la parole après, vous la consulterez sous le jour de ces éléments de la psychologie, vous trouverez des choses magnifiques, très bien. Vous trouverez par exemple, n'est-ce pas, qu'il faut savoir un petit peu se faire valoir. Par exemple, n'est-ce pas, on nous dit ça, il faut se faire valoir. Moi je ne pense pas que ça puisse être vraiment un conseil, non seulement un conseil utile, mais un conseil juste pour des chrétiens. Enfin, je ne vais pas plus loin dans cela, mais je suis actuellement vraiment très très inquiet, très attristé de cette tendance qui se fait jour dans des conférences et dans des journaux. Méfiez-vous de cela. Nous n'avons pas à regarder la parole à travers le prisme des enseignements humains, de la psychologie par exemple. N'oublions pas que certains psychologues prennent la place, en somme, des pasteurs. C'est pas à cause de ça que, n'est-ce pas, c'est pas pour ça qu'on ne les aimerait pas, qu'on ne les veut pas, mais ils se donnent vraiment une fonction qui correspond à celle d'un pasteur qui, sagement, avec la foi et l'amour, donnerait des conseils basés sur la parole de Dieu. Eux, ils donnent des conseils basés sur la science des hommes. Et nous voyons que le Seigneur, notre Dieu, a fait de Christ le chef de l'Église, c'est-à-dire qu'il est la tête de l'Église, laquelle est son corps sur la terre. Et cela éclaire la relation intime et vivante entre le Christ et l'Église, si vraiment il est la tête. Il est la tête que nous, ensemble, nous qui sommes plusieurs, nous qui sommes une infinité, un grand nombre, nous sommes pourtant un seul corps, et il est la tête de ce corps, au point que dans 1 Corinthiens 12:12, l'Église est appelée Christ. Chose extraordinaire, si vous lisez bien ce verset, vous verrez que l'Église est appelée Christ. Eh bien, cela, évidemment, met en grande évidence cette relation intime et vivante entre le Seigneur et le corps, c'est-à-dire chacun des membres du corps. Notre relation avec le Christ, ça c'est quelque chose de merveilleux. Il faut apporter tous les soins désirables au maintien de cette relation vivante. Volonté, pensée, lumière, intelligence, sagesse, vie, tout provient de la tête. Le corps n'étant rien sans elle et ne pouvant pas subsister sans elle. Il ne subsiste que par elle. C'est pourquoi la plénitude de Christ est aussi communiquée à l'Église. Dans 1 Corinthiens 2, chapitre 12 et verset 16, 1 Corinthiens 2, 2, chapitre 12 et verset 16, l'apôtre Paul nous dit: car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. C'est pas quelque chose qui se ressent de l'orgueil ou de la prétention. Pas du tout, c'est quelque chose qui vient de la vérité, tout simplement. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? C'est ce qu'on devrait dire à ceux qui maintenant, n'est-ce pas, nous proposent des moyens scientifiques, humains, pour consulter la parole de Dieu. On pourrait leur dire, mais alors, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qu'est-ce qui a instruit le Seigneur? Vous n'étiez pas là pour l'instruire, et vous prétendez maintenant pouvoir interpréter d'une façon nouvelle sa parole. C'est absolument sans raison. Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Personne sur la terre donc ne peut prétendre instruire le Seigneur, ni connaître sa pensée à travers les sciences, que ce soit la théologie, la psychologie ou d'autres disciplines. Seul l'homme que l'Esprit éclaire et conduit, que l'Esprit éclaire et conduit. Si nous sommes conduits par l'Esprit, nous sommes fils de Dieu. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit du Seigneur. Donc seul l'homme que l'Esprit éclaire et conduit, l'homme de foi, le fidèle, peut connaître la pensée de Christ. Cet homme soumet son cœur et sa pensée à Christ, il reçoit, il garde et il observe sa parole selon le discernement qui se forme en lui. Dieu a tout prévu, il nous a pas donné la psychologie que les hommes allaient inventer, parce qu'il y a beaucoup d'inventions dans cette science de la psychologie. Il y a même un livre qui est dû à Kilpatrick, un Anglais, et qui se nomme L'illusion de la psychologie. Et c'est un professeur, grand professeur de psychologie, s'il vous plaît. L'illusion de la psychologie. Il nous dit dans cet ouvrage, qui est récent, il nous dit que la psychologie a fait beaucoup plus de mal au monde qu'elle n'a fait de bien. Je ne dis pas ça pour rejeter les professionnels de la psychologie qui sont entrés dans l'Église. Ils sont accueillis avec grande joie, mais à ce moment-là, n'est-ce pas, ils se soumettent eux aussi à la parole de Dieu et au discernement. Le Seigneur donne un discernement par son esprit. Il faut user de ce discernement se forme dans le cœur du croyant, du chrétien. Voyons par exemple dans Philippiens chapitre 1, le verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, voyez comme il avait des sujets de prière, l'apôtre Paul. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Donc ce discernement vient de l'amour. Il vient de Dieu, ce discernement. Pour le discernement des choses les meilleures. D'ailleurs, Paul prie, il le demande à Dieu, ce discernement pour les chrétiens. Donc c'est quelque chose dont nous avons besoin et qui vient d'en haut. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Le discernement. Le disciple a l'attitude, évidemment, qu'avait Marie de Béthanie, dont il nous est parlé dans le chapitre 10 de Luc. Elle écoutait, elle se mettait aux pieds du maître, elle écoutait, elle méditait. Sa sœur, Marthe, évidemment, était, elle, assez inquiète au sujet de la réception à offrir au Seigneur Jésus, et elle se livrait, elle, à l'activité. Mais sa sœur, elle a beau faire des reproches à sa sœur, il n'empêche que Marie avait choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Soumettre son esprit à Christ devrait être le désir constant du fidèle. Soumettre son esprit à Christ. Ce disciple, s'il est disciple accompli, s'est fait pauvre en esprit. Il reste dans le clan de ceux qui sont pauvres en esprit. Et il est dit de cela que le règne de Dieu, le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, il est en plein, lui, dans le règne des cieux. Il s'est fait pauvre en esprit, il attend tout de Dieu. Et l'esprit, lui, demeure toujours en accord avec la parole. Il ne peut jamais y avoir de désaccord, bien entendu, entre l'esprit et la parole. Et notre esprit, notre propre esprit d'homme, doit aussi demeurer dans cet accord. Dans cet accord avec, qui est l'accord de l'esprit, l'esprit qui prend de ce qui est à Christ et qui vient nous l'annoncer. Alors, qui nous conduit dans toute la vérité. Alors, cet accord de l'esprit avec la parole écrite, notre esprit est aussi dans cet accord-là. Nous ne sommes pas en marge, nous n'avons pas des raisonnements à faire prévaloir, nous sommes dans cet accord du Saint-Esprit et de la parole. On ne peut avoir la pensée chrétienne qu'en se plaçant sous le joug de Christ. Si notre cœur n'est pas entièrement livré à la pensée de Christ, alors là, il y a évidemment un problème. Nous ne pourrons pas mettre en pratique cette parole. Un gros problème, celui de la mise en pratique. Nous ne pourrons pas la mettre en pratique si notre cœur n'est pas entièrement livré. Si nous n'avons pas la pensée de Christ, comme dit Paul, n'est-ce pas? Eh bien, nous ne pourrons pas la mettre en pratique. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, nous serons défaillants. Nous serons défaillants de ce côté-là. En effet, les commandements de Christ, n'ont pas la même structure que les commandements la loi promulguée par Moïse. Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Là, c'était net. Il s'agissait de ne rien prendre à son prochain, n'est-ce pas? Rien lui prendre. Bon, ça, on sait. Ah, tu vas pas lui prendre ce qui est à lui, ni même sa femme, n'est-ce pas? Bon, tu ne vas rien lui prendre. Bon, ça c'est facile, n'est-ce pas? On comprend bien. Mais les commandements du Seigneur sont différents. Et il faut vraiment l'esprit pour pouvoir les mettre en pratique. Le Seigneur Jésus nous demande de mettre sa parole en pratique. Mais sa parole, eh bien, il y a par exemple ceci, renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Oui, eh bien, mais ça mérite vraiment de la méditation. C'est pas évident, ça, du premier coup, n'est-ce pas? Comment je vais faire pour renoncer? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Vous voyez, n'est-ce pas? Nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de la lumière de l'esprit pour savoir mettre en pratique la parole de Dieu. Et surtout, il faut que notre cœur soit entièrement livré à la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Alors, nous serons, et ça se voit d'ailleurs dans l'Église, on voit des gens même qui se convertissent, font une magnifique conversion, ils ont tout de suite la notion de ce qu'ils doivent faire ou ne doivent pas faire. Ils ont une notion qui se présente tout de suite, rapidement, à eux. Renoncer à soi, il faut mettre ça en pratique, et demeurer en lui. Voilà un commandement du Seigneur. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Demeurez en moi, demeurez dans son amour. Tout cela demande beaucoup de discernement pour la mise en pratique. Et le suivre, et suivre Jésus, marcher comme il a marché, ça n'est pas non plus tellement évident. Vous voyez que les commandements de Jésus, pour les garder, pour les mettre en pratique, cela exige que nous ayons dans le cœur la pensée de Christ. Eh bien, nous allons nous arrêter là ce matin.